EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Nous terminons cette semaine avec Eric et Rachel et on va parler de relations, de niveau de relations aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous partager un témoignage de Sandy suite à la guérison de conférence guérison et réveil. Et Sandy nous dit, j'ai été guérie du strabisme. Depuis toute petite, j'en souffrais et cela me déstabilisait car plus je grandissais et plus cela empirait. Et quand Jean-Luc Traxel a dit que Dieu allait guérir tous les problèmes des yeux, j'ai touché mes yeux et j'ai ressenti une petite douleur à l'œil droit. J'ai eu la foi que c'était le Saint-Esprit qui me touchait, car cet œil était celui qui était le moins actif. Puis il a demandé de laver les yeux et de regarder dans un miroir. À ma grande surprise, mon regard était normal et je rends grâce au Dieu qui est grand. Et oui, Dieu est grand, il guérit toutes sortes de maladies, il guérit les yeux aussi. Alors Sandy, on se réjouit avec vous et avec tous ceux qui avaient été aussi guéris pendant ce live, parce qu'il y a eu de nombreux témoignages de guérison, beaucoup notamment de guérison au niveau des yeux, de strabisme, de glaucome, etc. Dieu fait de belles choses. Alors merci encore à tous nos partenaires, parce que c'est ensemble que nous pouvons l'accomplir. Et si vous aussi vous voulez devenir partenaire, eh bien vous pouvez aller sur emcitv.com/don, avoir toutes les informations. Et je vous encourage aussi à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes les notifications, notamment des programmes spéciaux, mais aussi de vos programmes préférés. Et puis, si vous aimez une émission, mettez juste un pouce qui fait toute la différence. Alors maintenant, Eric et Rachel, eh bien, nous allons parler de différentes relations, parce que quelquefois, on peut mettre des pouces aujourd'hui un peu partout. Et selon ces pouces, on peut comme évaluer, en tout cas, on a l'impression qu'on peut évaluer les relations. On peut évaluer si on est proche ou pas proche de quelqu'un. Et c'est vrai que les réseaux et toutes les relations virtuelles ont peut-être un petit peu, en tout cas, nous ont mélangé dans nos relations, dans à la fois la qualité de la relation, mais aussi beaucoup au niveau de la proximité, de l'intimité de la relation. Ça crée des déceptions, ça crée des fausses attentes, ça crée quelquefois un sentiment de trahison là où il y aurait pu ne pas en avoir au final. Donc on va voir comment évaluer nos relations, puis aussi reconnaître les éléments qui font qu'une relation sont saines ou ne sont pas saines, parce qu'il y a des alertes quand même quelquefois qui ne manquent pas, et c'est important de pouvoir les connaître et de pouvoir les identifier. Mais on parle beaucoup de relations toxiques et on voulait pas faire une émission que sur les relations toxiques, et parce que je trouve aussi que j'en profite pour le dire que on en parle beaucoup et que beaucoup de relations sont aujourd'hui étiquetées comme relations toxiques. Ce sont des relations en cours avec des gens parfait, et que quand on est trop pressé aussi dans les relations, tu me sers pas, t'es pas utile, hop, et ben voilà, t'es toxique. c'est peut-être des jugements un peu, c'est des raccourcis. Donc on va voir aussi qu'il y a des relations saines qui existent encore aujourd'hui, et c'est possible de les construire. Ouais. Alors on peut partir, je sais pas d'où vous voulez partir, mais un point, c'est que il y a différents types de relations, puis c'est pas une mauvaise chose. On voit Jésus, il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait les 12, il y avait Jacques, Jean, Pierre, et il y avait des cercles, et c'est pas une mauvaise chose. Mais pourtant, on peut vivre du rejet dans ces cercles, et nous-mêmes, on peut avoir du mal à jongler dans tous ces cercles. Donc, comment un petit peu on s'y retrouve?
Moi, j'aime bien que on parte toujours du côté positif pour parler des relations, et bien sûr, on notera les relations toxiques. Mais c'est toujours bon de partir du côté positif et de ce vers quoi on veut tendre, pas ce qu'on veut éviter seulement. Quand on apprend à conduire au Colorado sur la glace, on nous dit ne regarde pas le fossé, parce que si tu regardes le fossé, tu y vas dans le fossé. Donc si on parle que des choses négatives, on risque de se trouver coincé.
C'est ce qui m'est arrivé, la première glace au Québec, je suis allée dans le fossé.
Bah, tu regardais le fossé, je suis allée dans le fossé. Tu t'avais regardé la route, tu serais restée sur la route. Donc très bon point de démarrer sur les relations. On a appris quand on était jeune à ce niveau-là, parce qu'en fait on avait placé des mauvaises attentes sur des gens avec qui on travaillait. Et on a été blessés au niveau de nos relations. Et ça nous a permis de relativiser.
C'était notre faute.
C'est notre faute, parce qu'on avait mis des attentes sur des personnes qui n'étaient pas prêtes à y répondre, et on les avait introduits dans un cercle qui était trop intime. Donc en fait, pour positionner des relations, moi j'aime bien utiliser les cercles concentriques qui deviennent de plus en plus grands.
Okay.
Et à l'intérieur, je vais me mettre devant le micro, et à l'intérieur de mon cercle d'intimité, là il y a les personnes avec qui je veux ouvrir mon cœur en fait. Et puis ensuite il y a les amitiés, les collègues, puis les personnes autres, et puis les autres. Et puis, il faut qu'on sache reconnaître dans quel cercle on veut introduire une personne. Et si une personne est, on en parlera, des personnes toxiques, si on les met ici, elles vont nous faire du mal. Si elles sont là, elles vont pas nous faire du mal, en fait. Donc déjà, si on commence à visualiser l'endroit où on va positionner nos relations, on va s'éviter des
douleurs. Je pense qu'avant de développer, souvent en tant que chrétien, on a de la culpabilité parce qu'on se dit, je suis chrétien, donc je vais être ami avec tout le monde.
Ben non.
C'est pas possible. Même Jésus n'était pas ami avec tout le monde, donc c'est pas possible. Et on peut, et peut-être que moi j'ai vécu ça avec l'âge. Quand j'ai passé 50 ans, j'ai eu comme un AA moment. J'ai 50 ans, je suis vieux. Je suis toujours très jeune, mature. Mais je me suis encore une fois, parce que c'est mon profil de personnalité, je faisais tellement d'efforts pour plaire à des gens qui en fait ne seraient jamais d'accord avec moi ou en valaient même pas la peine dans ma vie. Et en fait, on peut ne pas être ami avec tout le monde et être un chrétien qui plaise à Dieu. On doit avoir du respect pour tout le monde, on doit respecter les personnes en tant qu'individus pour lesquelles Christ a donné sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être amis de la même manière avec tout le monde. Donc attention aux fausses culpabilités chrétiennes. La culpabilité, elle vient rarement de l'Esprit Saint, c'est la conviction de péché qui vient de l'Esprit Saint. Donc là, c'est différent. Mais la culpabilité qui nous fait dire il faut que je sois ami avec tout le monde, non. On peut être ami avec certaines personnes d'une manière, et tu vas l'expliquer, plus intense, plus profonde, parce qu'on veut être vulnérable, mais on n'a pas besoin d'être ami avec tout le monde.
Et puis ça, c'est les cercles d'amitié et des relations. Et puis ensuite, il faut qu'on garde en tête qu'une relation, elle n'est pas forcément à égalité de la même façon. Par exemple, il y a plein de gens avec qui on a une relation de thérapeute à personne qui fait de la thérapie avec nous. Ces personnes ouvrent leur cœur et me racontent leur sexualité pour un temps. C'est une fenêtre ouverte sur un temps. Mais moi, je ne vais pas raconter ma sexualité à la personne. On n'a pas une relation d'amitié, on a une relation de thérapie. C'est-à-dire que sur un point précis, une problématique précise, le thérapeute va amener des propositions de solutions, expliquer comment prendre un chemin de guérison. Si je prends un coach sportif, par exemple, je vais définir.
C'est un projet que tu as ?
Non. C'est un exemple non vécu.
Je me demandais si on vivait un truc en direct.
C'est un projet. Non, c'est juste un exemple.
D'accord.
Pour quelqu'un d'autre sur notre planète. Donc, si je choisissais, par exemple, dans une autre planète, de me fixer un objectif de marathon, je vais voir le coach sportif. Je vais dire, mon objectif est de courir un marathon. Le coach sportif va m'accompagner jusqu'à ce que je cours le marathon. Mais il va pas me raconter sa vie, c'est pas. Si je vais voir mon pasteur, c'est pareil. Ou quelqu'un, je viens pour avoir de l'aide sur une compréhension quelque chose dans ma vie spirituelle, mais je m'attends pas à ce que le pasteur il soit mon ami en fait.
Mais comment est-ce que toi tu gères une personne qui n'avait pas compris la relation que vous avez? Moi je t'ai ouvert mon cœur, Rachel. Tu sais, du coup je m'attends, t'es mon ami maintenant, je m'attends à ce que tu me souhaites ma fête, est-ce que tu sois là à des moments importants, que tu prennes de mes nouvelles et je te le verbalise. Écoute, je suis déçue ou ça me fait de la peine. Comment est-ce que toi tu peux gérer quelque chose comme ça?
Ça m'est déjà arrivé, t'imagines bien. Et donc ma position c'est de dire je suis désolée que tes attentes non exprimé et que moi n'en ai pas été accompli, mais c'était des attentes mal placées puisqu'en fait on n'est pas dans une relation d'amitié et ça fait mal, hein, mais je vais le dire
comme
avec
ça, tu es fixée tout de suite
et j'ai appris aussi à l'annoncer en fait. Là, je t'écoute, j'ai une casquette différente, ma casquette de thérapeute. Il m'est arrivé d'avoir des temps d'échange avec des amis qui voulaient mettre ma casquette de thérapeute.
À l'inverse aussi.
Et donc, dans ce cas-là, je dis, non, on est en train de faire la vaisselle, là. Je suis pas en mode thérapeute. Si tu veux, on va prendre un rendez-vous, c'est exceptionnel. Mais on va se mettre dans un cadre où je vais être assise derrière un bureau ou un écran et je vais pencher ma tête sur le côté en mode thérapie. Et on peut pas mélanger. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré. Ouais. Le fait de positionner les attentes sur la personne et de les exprimer. Donc quand je démarre une thérapie, je dis pas, je suis pas ton ami, mais je vais avoir une posture qui va
professionnelle,
qui va vraiment transmettre une certaine distance thérapeutique pour que la personne ne s'attende pas à ce que j'ouvre mon cœur. Donc là, c'est des deux côtés en fait. j'ai appris à positionner en tant que pasteur ou thérapeute pour que la personne ne soit pas confuse dans mes messages. Mes messages ne sont pas confus.
Tu vois? Et quand il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de rapport, parce que thérapeute, il y a comme un rapport quand même qui est là, mais parfois il y a des situations où on est sur le même pied d'égalité, oui, on va dire. Mm-hmm. Et il y a peut-être une personne qui, comme Annabelle a dit, a des attentes par, oui, rapport à toi que toi t'as pas forcément, et cette personne exprime de l'amitié, elle exprime différentes, oui, choses, mais tu sens pas que tu es au même niveau. Comment on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on lui dit vraiment que on est pas au même niveau, en sachant que
tu vois, il y a plusieurs cercles. t'es là.
Je pense que si tu te retrouves dans une relation où tu sens que la personne a envie de plus, mm-hmm, mais toi non, ne lui donne pas de faux espoirs. Mm-hmm. Ne commence pas à lui rendre l'appareil. En, par exemple, si cette personne te parle de choses relativement personnelles, essayez d'être le moins blessant possible. C'est pas facile parce que on n'est pas à la place de l'autre personne, on n'est pas dans son cœur, on ne sait pas comment elle va réagir. Mais donne-lui le moins d'espoir possible en étant avec une distance émotionnelle, tout simplement. Tu peux écouter, mais pas rendre l'appareil en parlant toi de tes propres amis ou de choses qui te concernent ou autres. Et de garder une distance. Si tu sens que vraiment ça t'intéresse pas à ce moment-là, essaie de ne pas donner suite ou de ne pas donner de faux espoirs.
Non, mm-hmm, puis après des moments, il faut juste le dire.
Alors toi, tu vois, tu as la méthode douce et la méthode plus directe.
C'est pour ça que
tu choisis.
Rachel, dans notre histoire, l'endroit où j'ai le plus été blessée, c'était pas la faute de la personne, l'autre personne, c'était, ouais, une collègue. C'était que je m'attendais qu'elle réagisse comme moi, je réagissais avec elle. Et je l'avais pas dit. C'est un exemple, oui, tout simple. Je vais donner l'exemple.
Ouais.
Quand on était collègues, on travaillait dans la même équipe dans un pays étranger. Quand elle partait en vacances, moi, je m'arrangeais à ce qu'il y ait son frigo plein et un repas prêt.
Pour qu'elle revienne.
Quand elle revienne. Puis à cette époque-là, les fleurs coûtaient pas cher, je mettais même des fleurs. Et ça, c'est marrant, je l'avais pas longtemps. C'est gentil, tu vois. Ouais, c'était gentil. Et je mettais même des fleurs. Je mettais des fleurs sur les lits de toutes les chambres.
Oh.
Pour que les gens se sentent accueillis. Et quand nous, on est partis en vacances, ils l'ont pas fait. Ben, moi, ça m'a blessée. Il y a pas longtemps, je donnais cet exemple et quelqu'un a dit, moi, j'aurais été choquée que tu rentres dans ma chambre pour mettre des fleurs.
Pendant que je suis pas là.
J'ai dit, tu vois, t'as raison, j'avais jamais compris que ça pouvait la choquer, elle. Ben, on était très jeunes mais ça m'a donné une leçon, en fait. J'avais des attentes qu'elle fasse un repas et qu'elle mette des fleurs sur mon lit que j'ai pas exprimées, qui étaient peut-être déplacées, parce qu'elle était peut-être choquée que je mette une fleur sur son lit, puis elle me l'a jamais dit. En fait, nos attentes étaient décalées parce que je les avais pas exprimées. Et à partir de là, je me suis dit, je vais exprimer les attentes et je ferai attention que ça soit dans les deux sens, en fait. Mm-hmm. Peut-être que ça m'a permis d'être plus direct, mais quand quelqu'un a envie de construire une amitié avec moi, ça m'est déjà arrivé, une amie qui est maintenant devenue une amie, elle vient vraiment me dire, je veux être ton amie parce que je t'admire trop. Enfin, je lui ai dit, tu commences comme ça, tu seras jamais mon amie, en fait. On peut pas avoir cette relation. Mais tu fais, recommence, là.
On recommence, on la refait.
Si tu veux qu'on travaille sur une amitié, tu peux pas arriver avec ça, parce que chez moi, ça va me fermer. Mm-hmm. Et donc, j'ai appris, je pense que ça a facilité les relations, à simplement exprimer, mm-hmm, les attentes. Mm-hmm. T'es dans ce cercle-là, si tu veux rentrer dans un cercle plus proche, faut que ça soit réciproque. Mm-hmm. Et qu'on exprime qu'est-ce qu'on attend de l'autre exactement.
Pour moi, c'est vraiment une question de maturité aussi. Quand on est jeune, peut-être certaines personnes sont meilleures que d'autres, mais on va pas savoir exactement comment jauger ses propres attentes et deviner ou comprendre les attentes de l'autre. Mm-hmm. Souvent, des relations tournent mal parce que justement, il y a un problème d'attente d'un côté ou de l'autre, exactement, ou des deux côtés. Et donc ça, c'est de la maturité aussi dans la vie, où à force d'avoir des fois des relations déçues ou bien des choses qui se sont mal terminées, où on doit travailler sur soi pour comprendre ce que l'on attend d'une relation, tâter le terrain, voir si ça peut aller plus loin, sans s'engager déjà avant d'avoir la réponse de l'autre.
Et quand on est de l'autre côté, parce que là on, mm-hmm, parle de gens qui veulent entrer plus dans notre cercle, mm-hmm, mais quand c'est nous qui voulons entrer dans le cercle de quelqu'un et qu'on a envie d'être plus proche, on sent qu'on est là, mais on se dit, y a des gens qui sont là, moi aussi, mm-hmm, j'aimerais être là, parce que j'aime vraiment cette personne, j'aimerais qu'elle m'aime plus, en fait. Ouais. Et on fait des pas, mais on sent qu'il n'y a pas, d'ouverture. Donc dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut le vivre? Est-ce que ça veut dire qu'on peut juste pas y aller, ou que peut-être
moi,
qu'il prend mal?
Quand ça m'arrive, je fais deux choses. Je me dis, ok, Eric, quelle est ta motivation? Mm-hmm. Est-ce que je veux vraiment connaître la personne pour elle-même, ou est-ce que j'aurais un intérêt? Mm-hmm. Parce que professionnellement, ça pourrait représenter une bonne connexion, parce que ceci, parce que cela. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, d'avoir des connexions. Mais est-ce que j'ai un intérêt qui me motive, ou est-ce que c'est pour la personne, ou etc. Puis après, une relation forcée, ça marche jamais. Donc, je mets Dieu dans l'affaire. Je dis, Seigneur, à un moment donné, on va laisser les choses se passer. Et si ça s'ouvre, ça s'ouvre. Si ça s'ouvre pas, merci Seigneur quand même. Mais je veux pas forcer quelque chose qui serait fake, qui serait faux, qui serait hypocrite, même si le mot est un peu fort, mais je veux être sûr que Dieu soit dans l'affaire aussi. Pour que la relation s'ouvre si elle doit s'ouvrir.
C'est une très bonne approche, hein. C'est comme ça qu'Eric fonctionne.
Je pense à... Et donc Rachel, toi, comment
moi, je pense merci à... de valider, Rachel. Ça fait toujours plaisir.
Moi, je pense à une amie, Marie Olaos. Et je l'ai croisée, cette femme-là. Je me suis dit, on pourrait être amies toutes les deux. Alors, c'est vrai. Je suis rentrée, j'ai dit, voilà, oh j'ai rencontré une femme. C'est bizarre parce que son cadre de travail colle pas avec le nôtre, mais je suis sûre que je pourrais être amie. J'ai pris l'initiative de lui dire, on vient de se rencontrer. J'ai l'impression qu'on pourrait être amis, j'ai dit comme ça. Est-ce que tu voudrais qu'on aille boire un café ensemble pour qu'on apprenne à voir? Enfin, quand, genre, tu viens faire une date avec moi d'amitié pour voir si il y a que ça peut coller ou pas. Et on a fait ça. Et franchement, c'est une amitié de 25 ans qui a démarré comme ça. On s'est croisés. Là, pour le coup, si j'avais pas initié, nos cercles étaient tellement différents, éloignés, qu'on se serait jamais croisés par hasard, en fait. Mais je l'ai vue, et puis après on en a discuté, on est devenus amis, elle a eu la même réflexion, elle s'est dit, waouh, on pourrait être amis toutes les deux, et on a donc été intentionnels, en disant, on se donne une chance ou pas en amitié.
Parce qu'en fait, c'est un truc de nénette. De nénette, ouais, je veux pas être misogyne ou mais entre gars, je suis pas sûr que ça marcherait de la même manière.
En tout cas, ça a marché. Ça a marché. Je l'ai fait encore une autre fois. Je l'ai fait deux fois dans ma vie. Et il y a des amis. Et en fait, on n'a pas tant d'amitié. Dans le cercle intime, on n'en a pas tant que ça.
On n'a pas besoin de beaucoup non plus, je pense.
Moi, j'ai des amis, quelques amis de lycée, enfin de voilà, et puis quelques amis de cœur, en fait. Avec des amitiés qui ont été construites puis qui tiennent au fil des années. Après, tu as des amitiés qui sont proches, mais un peu moins intimes, etc. Donc, choisir dans qui avec qui on investit dans ces amitiés-là, ça vaut le coup quand même.
Mais je crois aussi qu'à la fois, il peut y avoir... tu disais, c'est quoi ma motivation? Et quelquefois, c'est même pas un intérêt de ce que la personne peut m'apporter. C'est qu'on n'a que deux modes. Soit on n'est pas amis, soit on est amis. Mais amis proches. Et qu'en fait, certaines personnes vont tout le temps rechercher l'intimité.
L'intensité.
L'intensité quasiment fusion. Et qu'en fait, s'il n'y a pas ça, c'est comme, ils ne savent pas avoir de relation en dehors.
C'est vrai.
Et tu vois, c'est pas parce qu'il y a un intérêt, c'est parce que c'est la seule façon que je sais faire les relations.
Moi, tu me dis ça, toi, intérieurement, je sens la casquette de thérapeute qui se met, me dit, ok, il y a un déséquilibre, il y a une souffrance.
Moi, Eric.
Non, j'ai compris. Il y a une souffrance, il y a un déséquilibre dans je te donne tout ou rien. Et donc, il y a sans aucun doute quelque chose dans l'enfance qui a généré une blessure. Et la blessure se transmet dans l'incapacité d'avoir des relations bien équilibrées. Je suis pas sûr d'avoir déjà donné peut-être ce témoignage à cette occasion sur une autre de nos émissions avec toi, mais moi je me rappelle avoir à un moment donné souvent recherché un mentor dans ma vie qui avait presque un rôle de père. Et un jour ça s'est mal terminé dans une relation où j'ai eu le sentiment d'avoir été maltraité dans la relation et puis je suis allé me plaindre à Dieu.
C'était une relation toxique.
Alors, je le voyais pas comme ça au démarrage. Et puis, ouais, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? C'est pas la première fois. C'était pas beaucoup, mais un certain type de relation, ça m'était arrivé. Et le Seigneur m'a dit, mais c'est ta faute. Alors, je me dis, c'est pas ce que j'attendais, Seigneur. J'avais envie que tu me
consoles,
que tu prennes soin de moi. Il me dit, non, c'est toi qui t'es trop ouvert. Donc, il n'a pas su faire attention à l'attente qui était de l'autre côté. Et en fait, tu as donné carte blanche quelque part. Et à un moment donné, ça a déraillé. Tu t'es fait marcher dessus parce que c'est toi qui es responsable aussi de la façon dont tu t'ouvres aux autres et de ce que tu peux attendre de l'autre. Et j'ai appris une grosse leçon à ce moment-là pour ma propre vie. C'est moi qui avais un déséquilibre émotionnel, qui cherchais une compensation quelque part dans une relation avec un type de mentor. Depuis, j'ai guéri depuis ce moment-là. Mais j'avais pas remarqué, j'avais un angle mort, je l'avais pas remarqué jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'en parle.
Et c'est vrai que d'avoir ce fort désir, quelquefois, d'être accepté dans une relation et de combler quelque chose, ça peut nous faire accepter des choses qui sont pas acceptables.
Tout à fait.
Parce qu'on a tellement envie que ces gens-là nous aiment que finalement on leur donne cette autorité dans notre vie de nous traiter finalement un peu comme ils veulent parce qu'on va revenir. On revient toujours. Ouais. Ils nous ont fait un sale coup, on revient. Ils nous ont mal parlé, ouais. Ils reviennent.
Et on manque de respect pour nous-mêmes quand on fait ça.
Ouais. Alors, on est obligé de basculer sur les mm-hmm. un tout petit commentaire sur les relations toxiques parce que quelqu'un qui va être toxique va chercher la faille en fait. Et donc va apprendre à spotter à détecter la faille chez la personne en face et va venir comme essayer de nourrir, de combler, de venir te donner ce dont tu as besoin, de la valeur, de la reconnaissance, etc. Mmh. Puis ensuite, clac, il te l'enlève. Mmh. Et là, on t'arrache un bout de cœur, en fait. Donc, plus on travaille sur nos blessures, mmh. les blessures de l'enfance, les choses avec lesquelles on a grandi, que Saint-Esprit pointe avec son doigt en disant « Eh ben peut-être qu'il faut qu'on s'occupe de pourquoi tu cherches de la reconnaissance mm-hmm. Dans les yeux de personnes qui auraient autorité spirituelle sur toi, par exemple. Pourquoi tu cherches de la reconnaissance ? Et si tu travailles à avoir ta reconnaissance dans le regard de ton Père céleste, tu n'es plus une proie potentielle, mm-hmm. en fait. Donc, on sort de risque à relation toxique en soignant son cœur aussi. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de poignée en fait ouais, pour qu'un ça. Quelqu'un nous attrape dans une relation ouais. toxique.
Il y a des gens populaires qui vont avoir beaucoup de gens autour d'eux et il peut y avoir ça peut générer cette envie je voudrais en faire partie mm-hmm. parce que ce qu'on appelle en anglais de FOMO, the fear of missing out. Ouais. Si je suis pas dans le cercle de cette personne, je vais manquer quelque chose d'important mm-hmm. pour ma vie.
Ça veut dire ça FOMO.
Oui.
Fear of missing out.
Okay. Tu connais ça? Ben j'ai le mot mais ah. je, à chaque fois tout ce que j'y mets, je me dis non ça fonctionne pas.
La peur de manquer quelque chose.
Et en fait, la peur de manquer quelque chose vient de ce que tu dis. Je suis pas établi dans qui je suis. Et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et que c'est quelqu'un qui va me l'apporter. Mm-hmm. Et les gens populaires, souvent, vont, s'ils sont pas bien non plus dans leur peau, abuser de ça. Mm-hmm. S'ils sentent qu'il y a des gens qui sont remplis de FOMO, ils vont en abuser parce qu'en fait, ces gens-là ont besoin d'un complément qui leur est extérieur pour exister. Quoi. Mm-hmm. Et c'est dangereux. C'est la porte ouverte à toutes sortes d'abus après.
Okay. Et est-ce que s'il n'y a pas des gens dans un cercle intime, parce qu'on a vu qu'il y a différents mmh. types de relations, est-ce qu'il y a un manque à ce moment-là?
S'il n'y a personne?
Oui.
Si tu es tout seul dans le cercle
dans
intime,
oui,
il y a peut-être une carapace, une protection trop forte en fait. Mmh. On n'a pas besoin de 50 000 personnes, mais de quelques personnes. Dieu nous le montre avec la Trinité. Mmh. Dieu est un Dieu de relations. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et on voit dans le ministère terrestre de Jésus qu'il y a une interaction entre les trois, en fait. Mmh. On voit Jésus qui va prendre du temps avec son Père céleste, etc. Le Saint-Esprit qui est là en forme de colombe avec la voix de Dieu le Père. On voit ce relationnel. Donc on a besoin d'être en relation. Et quelqu'un qui serait seul sur un îlot complètement enfermé dans une coquille, il y a une forme de protection, casquette de thérapie.
Même si elle a d'autres des relations oui. dans les sectes.
Après, ça dépend ce que là, voilà. Est-ce que tu veux dire complètement isolé ou est-ce que tu veux dire...
Non, les relations peuvent être là, mais dans le petit cercle, le premier,
il n'y a personne. Ouais, moi, j'ai recherché, tu protèges de quoi, en fait? De quoi t'as, t'as peur d'avoir mal? Pourquoi? Mais si c'est quelqu'un de célibataire, un monsieur ou une dame célibataire, t'as pas la même... Tu te suffis à toi-même, en fait, t'es pas une demi-personne. Mais on a quand même besoin d'avoir des gens qui nous connaissent. Mm-hmm. De l'intérieur.
Qui a un droit de regard d'amour, voilà. mm-hmm. à qui on puisse être redevable, par exemple, et qui puisse nous dire, écoute, là, attention à ce que tu fais, c'est peut-être pas bon pour toi, ou alors, c'est bien, vas-y, fonce.
Il faut plus que deux.
Ouais. Et plus que
il
deux,
faut
toujours.
Un trio, en fait.
Pour qu'il n'y ait pas d'exclusivité.
Là, c'est... On parle de combien de personnes?
Trois.
Ouais.
3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3.
Parce que là, il n'y a pas de place pour 12
pas
personnes.
50 000. Non. Non, plus que une.
Comme si on a deux amis, on est riche. Deux voilà. ou trois amis, on est riche.
Et des amis avec qui on peut dire, tu peux me poser des questions sur la pureté dans mes pensées, comment je gère mon célibat, mes finances, ma vie spirituelle. On va se tenir redevable ensemble pour marcher, faire un bout de chemin ensemble. Jésus a envoyé ses disciples par équipe, en fait, pas seul. Mm-hmm. Et t'as besoin de faire le chemin de la vie, pas seul. Mm-hmm. Avec... deux personnes, trois personnes qui ont un droit de regard dans ton cœur.
Alors souvent, il y avait ce cercle restreint de quelques apôtres autour de Jésus. Quand il est à Gethsémané, par exemple, Jésus va avoir tellement peur et d'angoisse qu'il il, il, il transpire du sang, donc c'est vraiment une angoisse extrême. Il va dire, venez, accompagnez-moi. Même lui, il va chercher à s'entourer de ses plus proches dans les moments où il en a le plus besoin et être vulnérable avec eux. C'est quand même le Fils de Dieu et Dieu lui-même qui va dire, j'ai besoin de vous. Venez, veillez avec moi et priez, j'ai besoin de vous, j'ai trop peur.
Même lui, il n'est pas tout seul.
Non, même lui, il n'est pas tout seul dans ces moments-là.
Et comment faire si il y a quelqu'un, on sait que je suis dans son cercle intime à elle, mais elle n'est pas dans le mien. Elle n'est peut-être pas non plus à l'autre bout, mais elle n'est pas quand même dans mon cercle. Et comment est-ce que ça va créer un décalage à un moment donné? Est-ce que dans ce cercle particulièrement, il faut qu'il y ait une réciprocité?
Alors, si tu parles du cercle intime, je tendrais plus à parler de réciprocité. C'est pas juste si d'un seul coup elle te raconte tout. On n'est pas dans une relation de thérapie, on est d'accord.
Relation
d'amitié. Si t'as pas un certain niveau de réciprocité, alors t'es dans le deuxième cercle. Parce que dans le deuxième cercle, il y en a une qui peut être ouverte plus que l'autre. Mais t'as pas un niveau d'intensité égal. C'était ici. Bah, si tu veux vraiment de la confiance, il faut que tu joues le jeu dans les deux sens. Sinon, t'es juste le cercle d'à côté. Il n'y a pas de problème. On peut être dans le deuxième cercle où il y a un niveau d'ouverture ou de besoin d'ouverture qui est un peu en décalé. Pas de problème dans le deuxième cercle. Dans le premier, t'imagines pas qu'il y en a qu'un des deux qui se choisisse de se rendre vulnérable.
Parce qu'il peut y avoir ce décalage quelquefois dans les relations.
Tu sens tout à fait.
Tu sais, il y a une qui est beaucoup plus impliquée, t'es plus importante pour elle qu'elle l'est pour toi.
Pas de problème.
Et c'est pas de problème. Mais si l'autre t'a dit,
mais il y en a une qui va dire, moi je m'ouvre à toi et toi jamais. Mais je pense qu'il faut être capable de l'accepter. Si on aime vraiment la personne, peut-être que c'est sûr, des personnes ont moins besoin de s'ouvrir aux autres que d'autres. Et donc accepter qu'il n'y ait pas une réciprocité à 100%.
Mais verbaliser qu'on n'est pas dans le cercle d'intimité en vrai. On est dans le deuxième cercle avec un niveau d'ouverture différent aux deux niveaux. De parler de deux personnes.
Dans le premier cercle, est-ce qu'on peut se permettre, ou alors l'on tombe dans le deuxième, OK, avec cette personne, je parle, je sais pas, des enfants et je sais pas quoi, mais il y a des domaines que je ne parle pas.
Oui.
C'est OK,
c'est pour ça
mais
que
on est
personnes.
Dans le premier cercle.
Oui.
OK.
C'est pour ça que tu as plusieurs personnes dans ce premier cercle, quand tu es célibataire, par exemple. Quand tu es marié, ce cercle-là, le premier-là, il inclut deux personnes, en fait. Dans l'intimité. Quand tu es célibataire, tu peux pas être seule dans ce cercle-là. Il te faut deux personnes au minimum. Et tu vas pas ouvrir à 100% à une seule personne. Sinon, tu es en risque d'exclusivité. Mais à deux personnes ou trois personnes, oui.
Ok.
Je trouve que de visualiser avec les cercles, ça aide.
Ça aide.
Et à quel point on peut aussi... Vas-y.
Dans le cas... Moi, j'ai des cas parce que dans ma tête, ça...
ça travaille.
À l'école, ouais.
Et comment on fait lorsque, par exemple, tu es en position de mentor-ami?
Oui. T'es la mentor de ton ami.
Oui, t'es dans cette position. Déjà, est-ce que c'est bien est-ce que ça fonctionne ou...
Moi, j'ai un cas. Le cas dont je parlais tout à l'heure, c'était ça. En fait, au démarrage de la relation, c'était mon mentor. Et lui et moi savions qu'il y avait un danger. D'être à la fois ami et mentor, on se dit oh, on va quand même être plus intelligent que ça. Ça s'est mal terminé.
Ok.
Donc, il y a un moment donné, la hiérarchie de l'un vis-à-vis de l'autre va corrompre l'amitié au niveau de l'équilibre et pas forcément avec de mauvaises intentions, mais il y a un moment donné, il y aura un abus de la relation d'un côté ou de l'autre.
D'un relation de mentor à mentoré, t'as une relation, comme tu dis, hiérarchique. Le mentor, il te tire vers le haut. Il dit, je vois dans ta vie qu'il faut qu'on travaille sur l'orgueil, par exemple. Donc, le mentor, tu lui donnes un droit de regard sur ta vie. Ensuite, t'as le coach. C'est toi qui lui donnes l'objectif et il va te donner les pas pour arriver à l'objectif. Il va vérifier avec toi, est-ce que t'as fait le pas 1? Est-ce que t'as acheté une paire de baskets pour courir le marathon, par exemple? Donc, c'est le coach, tu lui donnes l'objectif. Il te fait avancer. Ensuite, t'as le thérapeute. T'as un problème, t'amènes une problématique au thérapeute. Après, t'as le partenaire de redevabilité qui peut être un niveau d'amitié où tu te dis, j'ai besoin que tu m'aides à travailler sur la pureté de mes pensées. Donc, s'il te plaît, demande-moi tous les 15 jours si je regardais un truc déplacé. Là, on est dans une relation, on marche ensemble. Ici, t'as Paul et Timothée. Là, t'as Paul et Barnabas. On marche ensemble. On marche ensemble sur le chemin et je te donne un droit de regard sur tel domaine de ma vie. Et ça peut être dans les deux sens, pas de problème. Mais tu vois, mentorer, tu mentores pas Et si t'es ami, il faut vraiment changer de casquette, en fait. Il faut avoir beaucoup de discipline dans le relationnel avec une amie. Comme je dis, moi, on n'est pas super encourageant de cette situation-là, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, moi, je mélange pas les deux conversations. Ouais. Si on a une conversation où je suis plus dans une position de mentor, on prend rendez-vous, on le marque dans l'agenda, on ouvre le rendez-vous par la prière, on termine le rendez-vous par la prière. Quand je suis amie avec toi, je prie pas avant de te parler. Enfin, je discute avec toi, tu vois. Et donc, on a mis en place quelques petits rituels qui ouvrent et ferment le changement de casquette.
Ok.
Ok. Ça répond à ta question.
Bah oui, bah, parfaitement, parfaitement. Parce que parfois il y a des amalgames.
Oui.
Aussi parce que je pense que quand on ne comprend pas les rôles, on peut se laisser déborder.
Bah oui.
Tu vois, le mentor devient peut-être l'ami de tout le monde. Et puis là, ce que ça fait, c'est que ça, à un moment, on ne sait plus, mais il faut le dire, en fait.
La confusion génère toujours la souffrance d'un côté ou de l'autre. Bah, confusion des rôles.
Ouais. Honnêtement, des fois, en tant que thérapeute ou mentor, je te donne un conseil. Et si je suis en tant qu'ami, je te donne pas le même conseil. Mon conseil est différent en tant qu'ami. En tant qu'ami, je te dis, sauve-toi. En tant que mentor, je te dis, non, tu vas apprendre à reconstruire. Donc, des fois, tu préfères avoir le mentor que l'ami. C'est vrai, c'est pas le même niveau de conseil.
Mais il faut faire attention à toute relation qui peut tourner après à un abus d'autorité ou un abus de la relation. Un mentor peut avoir, à un moment donné, se dire, bon, ben, je domine dans la relation, puisque je suis le mentor, je peux utiliser la relation pour obtenir telle ou telle chose de la personne. Évidemment, là, c'est dangereux, quoi.
Et là, on a beaucoup parlé du positionnement. Je pense que c'est intéressant de voir aussi l'effet qu'une relation conduit sur nous. Il y a des gens, ils te vident, en fait. Tu passes une après-midi ou une heure, tu ressors vidé. C'est des gens qui te vident, parce que il y a de l'énergie qui est pompée. Tu peux pas les avoir dans un cercle intime, sinon tu vas suffoquer. En fait, les gens qui te vident, il faut que tu les gardes dans un cercle plus loin. Parce que l'effet sur toi, c'est, t'arrives plus à respirer. Puis t'as des gens qui t'énergisent. Tu repars de leur présence. T'es encouragé, t'es gonflé à bloc. Dans ces gens-là, t'as envie de les rapprocher. Ou de te rapprocher de leur cercle intime, ou de les rapprocher toi de ton cercle intime. Parce que l'effet sur toi et l'effet que toi tu as sur eux est positif, c'est un cercle vertueux. Donc ça, c'est aussi un critère pour savoir si évaluer les relations, en fait. Si tu veux être ami avec quelqu'un qui, à chaque fois que tu t'approches de cette personne, elle te vide, tu risques de tomber dans une relation toxique, en fait. Il y a un truc qui est pas au bon endroit.
Et comme nous sommes des êtres humains, il peut y avoir des amitiés du cercle 1 qui, à un moment donné, même après 30 ans, 40 ans, je sais pas combien, vont s'arrêter.
Okay.
Moi, je me rappelle mes deux amis d'enfance, qui étaient mes deux témoins de mariage. Vraiment, on était très proches. On terminait la phrase quand de l'autre qui avait vraiment, on se connaissait par cœur. Mais il y a eu ma conversion. J'ai donné mon cœur à Jésus. Ça, ils ont toujours été là. Même ils ont compris que je changeais de façon de vivre. Mais petit à petit, ça a fait que même si on s'est jamais disputé, jamais fâché, rien du tout, mais on n'est plus aussi proche que ce que avant. Ils étaient mon cercle le plus proche. Et puis Jésus est entré dans ce cercle, et puis ma femme aussi. Et puis
ni Jésus ni ta femme qui les a poussés de côté.
Pas du tout. Mais ce qui est normal, c'est qu'en fait aujourd'hui, ils sont dans un cercle bien plus éloigné parce que les années, parce que les choix de vie, l'éloignement ont fait que, en fait, ils sont sortis. Et moi aussi, je suis sorti du leur.
Ça n'enlève pas l'historique.
Du tout. Et quand on se revoit, on a toujours autant de plaisir de se revoir. Absolument. On est toujours amis, mais le cercle a changé naturellement. Il ne faut pas s'agripper comme à un rocher. On était les meilleurs amis du monde. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Parfois, c'est simplement la vie.
Parce que quand tu connais quelqu'un depuis 20 ans, tu vois, c'est comme, c'est ton ami, c'est ta personne, la personne t'a vu dans toutes sortes de positions et de choses. Tu vois, donc vous savez que vous avez un historique ensemble, mais 20 ans plus tard, on évolue, change.
Mais oui.
Et parfois, ça peut justement être difficile de même penser que, en fait, la personne est ici, alors que la personne a toujours été là.
Oui.
Et de l'exprimer. Parce que dans tout ce qu'on dit, je pense qu'on le comprend quand même bien, mais je pense que la difficulté dans ce qu'on dit, c'est beaucoup verbaliser ces choses-là, tu vois. Dis à ma copine de 20 ans que, enfin, tu vas pas le dire, mais...
Rachel, oui.
mais même te comporter, tu vois. avec la personne qui vient vers toi pour être une amie, mettre ses limites là et tout. Je pense que c'est peut-être plus à ce niveau que qu'il y a la difficulté. Autant on comprend que c'est normal de pas raconter sa vie à tout le monde.
Bien sûr,
on le comprend, mais je crois que c'est vraiment au niveau de la communication pour exprimer ces choses-là qu'on a besoin de grandir.
Et puis que une relation qui évolue et qui s'épanouit, c'est pas forcément une relation où les gens vont changer de cercle. Elle peut s'enrichir au fur et à mesure du temps, mais rester dans ce même cercle.
Exact.
Et à la fois, on se dit, bah, il y a une étape, là, faudrait qu'on passe une étape. Et puis, en fait, il y a des gens, tu les mets dans un autre cercle plus proche et ça fonctionne pas. Et tu les remets dans l'autre cercle, ça fonctionne super bien. Tu dis, bah, on va rester. Mais ça fonctionne pas. Et en fait, c'est accepté. Ici, on est bien. C'est le meilleur de notre relation. Et j'ai pas besoin d'aller chercher. Ça sera pas un échec. Notre réussite relationnelle, elle est ici. Et c'est là où on va avoir aussi beaucoup de paix. Et je pense qu'on se dit tout le temps, bah, chaque chose qui doit évoluer, il faut que ça pointe dans son âme, alors que bah pas du tout. Et ça, c'est quelque chose. C'est une fois qu'on l'a compris, ça amène beaucoup de paix dans le cœur et dans les relations.
C'est très profond.
Ça aurait été intéressant, mais on n'a pas le temps, peut-être. Mais ça aurait été intéressant de savoir
plein de trucs en peu de temps.
De savoir quelles sont les informations qu'on peut dire là, et qu'est-ce qu'on ne livre
pas. Nice, capable.
Ah ouais.
Quand tu es dans le cadre du couple, par exemple, le cercle numéro 1, il doit y avoir une transparence, une mise à nu, comme Adam et Ève étaient nus, n'en avaient pas honte avant la chute. C'est ça vers quoi on doit tendre absolument. C'est-à-dire avoir une nudité évidemment physique entre époux, mais aussi émotionnelle et spirituelle, que l'autre n'y ait rien ou le moins possible. Et s'il y a quelque chose, on travaille quand même pour le mettre dans la transparence, qu'il n'y ait rien qui soit caché de l'un à l'autre entre époux. Ça, c'est le niveau le plus ultime, quoi, qui représente aussi ce que Dieu veut avoir avec nous. Le mariage, c'est symboliquement la relation, l'exemple de la relation que Dieu veut avoir avec nous. Rien de caché entre Dieu et moi, quoi.
Et après, dans le cas du célibat, dans ce petit cercle intime avec deux personnes ou trois personnes, c'est comme un puzzle. On donne pas tout, mais des morceaux à une personne. Comme ça, on ne risque pas de créer de l'exclusivité, tout simplement. Et puis ensuite, c'est comme tu as accès à mon âme, à mon esprit, et puis à mes pensées, pas au corps évidemment, à mes pensées. Et puis quand on rentre dans le deuxième cercle, bah, t'auras accès, pas à mon âme, mais à ce que je ressens, par exemple. Donc pas l'essence de qui je suis, de comment je réagis dans mon âme, mais quelques-unes de mes émotions, tu vois, dans ce que je ressens. Puis ensuite, tu vas avoir accès à une couche beaucoup plus au maquillage, si tu veux. Tu me verras jamais sans maquillage, si t'es dans ce cercle-là. Si t'es dans ce cercle-là, tu me verras sans maquillage. Au niveau de maquillage, enfin son maquillage, au niveau physique, mais aussi au niveau
émotionnel.
Tout le monde n'a pas accès à ce cercle-là, en fait, de dire quand j'ai mal, je vais pas le montrer à tout le monde, par exemple, ou quand je suis heureuse non plus. Donc, au fur et à mesure que tu t'éloignes, tu as accès à une couche plus éloignée du noyau de qui je suis. Et tout simplement, c'est visuel et c'est normal. Puis t'as pas envie non plus d'avoir accès au noyau de tout le monde. En fait, tu peux pas porter ça. Tu peux pas porter ça, mais des gens qui seront toxiques vont essayer de rentrer dans ton noyau, en fait. Alors que, t'as pas rentré dans mon noyau, t'es pas dans mon cercle. Si tu rentres dans mon noyau, tu vas voir mes failles. Une vraie amitié, quelqu'un qui est safe, il va voir une faille, une faiblesse, sans l'exploiter.
C'est ça.
Mais en me disant, viens, je porte avec toi le fardeau pour un temps, tu vois. Donc attention, c'est pas un accès direct à tout le monde. Tout le monde n'est pas branché en direct avec mon centre, en fait.
Je pense que ça rebondit sur ce qu'Annabelle disait, ce qui pour moi est super profond. C'est vraiment de savoir que des gens peuvent s'épanouir à des niveaux différents. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent progresser. C'est un peu dans l'entreprise, c'est le syndrome de Peters, quoi. C'est un peu la même chose. Oui, il y a des gens qui vont s'épanouir à tel niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent aller au niveau au-dessus, forcément.
Bah, Jésus, il en a choisi 12. Et mais nous, on fait pas partie des 12 choisis par Jésus, mais on a quand même une relation avec lui, tu vois. Mais il en a choisi pour son ministère terrestre que un certain nombre.
Puis il y avait 40, après, puis il y avait 70, voilà.
Après, t'avais toutes les femmes, les autres ils étaient aussi dans un cercle, mais pas le même cercle que les 12 avec qui il a fait son chemin. Et on voit cette notion de cercle avec Jésus. Et on voit cette notion de non-réciprocité totale. Enfin, quelqu'un qui le suivait partout pour écouter ce qu'il disait, il n'avait pas accès à quand il a pleuré seul à Gethsémani, tu vois. La foule n'avait pas accès à cet espace-là de son cœur. Donc, on peut tout à fait appliquer ce phénomène de cercle concentrique à Jésus sur son ministère.
C'est une maturité que l'on gagne en vieillissant aussi, en espérant qu'on apprenne de ce que l'on a vécu et qui a pu être douloureux, justement de bien positionner la personne là où elle appartient en fonction des attentes et de ce que je veux. J'ai pas à être forcé dans une relation, quoi.
Dernière question. Je fais Aurélie aujourd'hui, non?
Si on a un couple, est-ce que nos cercles doivent être en accord?
Très bonne question.
Oh. Elle est bonne.
Alors, dans un couple, il y a donc les deux, puis ensuite des cercles qui grandissent avec des personnes communes. On peut avoir quelques petites personnes satellites qui vont être l'ami plus, Eric a son cercle d'amis d'hommes, et moi j'ai quelques amis femmes. Donc on peut avoir des cercles sur le côté,
absolument,
mais qui sont validés par l'autre. Des fois même, je dis à Eric, vas-y, va dans ton groupe d'hommes, ça va te faire du bien. Donc c'est équilibré et sain aussi que d'avoir des petits cercles indépendants.
Ok, merci. Non, Aurélie, je suis désolée. Mais il faut que vous reveniez. On a plein de questions.
C'est un bon sujet.
Nous, on aime
Et je pense que ça amène de la clarté. Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu l'as dit, Eric? Où il y a de la confusion, il y a... C'était... Tu l'as
dit. Des blessures? Non,
je sais plus, mais en tout cas, c'est très bien. Retrouvez le passage.
Retrouvez, mettez-le dans les commentaires, comme ça on ira lire vos commentaires.
Les souffrances.
Une des choses que vous avez exprimées tous les deux, c'est au niveau de la clarté. La clarté de où on est, là où sont les personnes aussi dans notre cercle. Alors, on a vu, il y a plusieurs façons de l'exprimer, de le manifester. Donc, prenez celle qui vous convient le mieux. Il n'y en a pas une qui est mieux.
Ah bon?
Mais une qui vous correspondra le mieux. Et je crois que ça va amener de l'ordre, ça va amener de la paix, ça va éviter que vous subissiez vos relations. Les relations, c'est des bénédictions, en fait, dans notre vie, c'est sûr. Il y a des choses, il y aura des défis, il y a des choses à travailler, à pardonner, des confiances à rebâtir, mais on n'est pas obligé de subir les relations et d'être malheureux dans nos relations. Dieu a prévu beaucoup de joie dans tous ces cercles, alors que vous puissiez découvrir ces cercles, et s'il y en avait qu'un seul, ça veut dire qu'il manque peut-être un petit peu de largeur dans et d'espace dans vos relations, et que chacun puisse être remis à sa place. Et c'est peut-être aussi comme ça que vous allez pouvoir retrouver un petit peu de respiration, parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive seul aussi, et ses amitiés, ses plus ou moins proches, nous enrichissent, nous apportent aussi beaucoup, et peuvent être des aides capitales à des moments cruciaux dans nos vies aussi. Alors c'est pour ça que je vous encourage à pouvoir faire cet exercice avec le Saint-Esprit. Et encore une fois, merci Eric et Rachel.
Merci,
enrichissant toutes ces émissions. Et on se dit à bientôt. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.